OK, recording in progress, ça vient de le dire.
Mais voilà.
Voilà. OK, on y va. Virginie.
2.4. La véritable expiation implique de parvenir à la connaissance parfaite. Et pour cela, il existe une méthode établie. Il faut se rappeler qu'il y a deux sortes de connaissances, vidya et avidya. Le vrai savoir dont il est question ici est dénommé vidya. La Bhagavad Gita 9.2 décrit la vidya. Raja vidya raja guyam pavritam pavitram idam utaman pratyakshyavaganmam dharmyam shushukam kartum avyayam. Raja Vidya, le roi de tout enseignement, Raja Guyam, le roi du savoir secret, Pavitram, le plus pur, Idam, ce, Uttamam, transcendantal, Pratyaksha, par expérience directe, Avagana, Avagamam, compris, Dharmyam, le principe de la religion, Shu, Shukam, très joyeux, Kartum a exécuté Avyayam impérissable. D'entre tous les enseignements, ce savoir est le roi, le secret d'entre les secrets, la connaissance la plus pure. Et parce qu'il nous fait percevoir directement le soi grâce à une réalisation interne, il représente la perfection de la religion. Il est impérissable et d'application joyeuse. Du fait de connaître sa véritable identité spirituelle, on peut s'engager dans les activités conformes à cette véritable identité spirituelle que l'on nomme Sanatana Dharma. Srila Prabhupada écrit souvent sur le Sanatana Dharma dans ses livres. Nous présentons un passage tiré de l'introduction de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Deux points. Les hommes ne doivent pas passer leur vie à se quereller comme chien et chat. Ils doivent user de leur intelligence pour réaliser l'importance de la forme humaine et ne pas se comporter comme des animaux. L'être humain doit saisir le véritable sens de la vie, ainsi que l'indiquent les écritures védiques et en particulier la Bhagavad Gita qui en est l'essence. Ces écrits s'adressent aux hommes, non aux bêtes. Un animal peut en tuer un autre sans qu'il soit question de péché, mais qu'un homme par simple gourmandise tue un animal et il se rend coupable de violation des lois de la nature. La Gita explique clairement que chacun agit et se nourrit en fonction des divers modes d'influence de la nature. Elle décrit en outre les actes et les aliments correspondant à la vertu, la passion et l'ignorance. Si nous tirons parti de tels enseignements, notre vie entière sera purifiée et nous pourrons dès lors atteindre l'ultime destination, au-delà de l'univers matériel, temporaire, en un lieu appelé Sanatana Dharma, le royaume spirituel éternel. Yad Gadva na Nirvatante Tad Dharma Paramam Mama. Les lois du monde matériel veulent que tout naisse, subsiste quelque temps, se reproduise, dépérisse, puis disparaisse. Nul corps n'y échappe, qu'il soit humain, animal ou végétal. Mais nous savons qu'au-delà de ce monde éphémère s'en trouve un autre de nature éternelle, Sanatana. Le Seigneur et les Jivas sont d'ailleurs également décrits dans le 11e chapitre comme étant Sanatana. Du fait que le monde spirituel, la personne suprême et les êtres vivants sont tous de nature Sanatana. Une relation intime nous unit au Seigneur. La Bhagavad Gita a pour but de nous aider à recouvrer notre fonction éternelle, le Sanatana Dharma. Nous nous livrons pour le moment à des occupations temporelles de toutes sortes. Or, pour mener une vie pure, il nous faut purifier nos actes en délaissant ce qui est temporaire et en accomplissant ce qui est prescrit par le Seigneur suprême. Krishna, sa demeure absolue, les entités vivantes sont tous Sanatana, et l'union des êtres et du Seigneur suprême dans la demeure Sanatana correspond à la perfection de la vie humaine. Le Seigneur est très bon envers les êtres vivants parce qu'ils sont ses fils. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare « Sarva Yonishu Aham Vidya Prada Ita » « Je suis le père de tous les êtres ». Évidemment, il existe une multitude d'entités vivantes en raison de la variété de leur karma, Mais Krishna n'en demeure pas moins le père de toutes. Il descend en ce monde afin de rappeler à lui les âmes déchues conditionnées par la matière et les ramener dans leur demeure éternelle où elles retrouvent leur fonction sanatana, à la compagnie éternelle du Seigneur. Pour sauver ces âmes, Krishna vient lui-même dans sa forme originelle ou en diverses autres formes, ou bien dépêche ses serviteurs intimes, dans le rôle de son fils par exemple, ou ses compagnons, ses représentants qualifiés, les acharyas. Ainsi, le Sanatana Dharma ne désigne pas une religion sectaire, mais la fonction éternelle de chaque être vivant, de chaque être en relation avec le Seigneur. Shripada Ramanujacharya donne du mot Sanatana la définition suivante.
Désolé.
Ce qui n'a ni commencement ni fin. C'est en ces termes, en se basant sur l'autorité de ce grand sage, que nous en parlerons nous ici. Par ailleurs, le mot français religion n'a pas exactement le même sens que Sanatana Dharma, car il comporte l'idée d'une foi, et une foi peut changer. On peut appartenir à une certaine confession, puis l'abandonner pour en adopter une autre. Or, le Sanatana Dharma, par définition, est immuable. On ne peut enlever à l'âme sa fonction éternelle, pas plus que sa liquidité à l'eau ou que sa chaleur au feu. Le Sanatana Dharma est inhérent à l'être éternellement. Nous acceptons la définition de Shripada Ramanujacharya, selon laquelle il n'y a ni début ni fin. Il ne peut donc être sectaire puisqu'il ne connaît aucune limite. Ceux qui se rangent derrière une croyance sectaire feront l'erreur de croire que le Sanatana Dharma l'est aussi. Mais en réfléchissant profondément à la question, à la lumière de la science moderne, on réalisera que le Sanatana Dharma est l'affaire de tous les êtres, non seulement l'affaire de toute l'humanité de cette planète, mais celle de tous les êtres de l'univers entier.
Jai, merci beaucoup. Alors, c'est ça, Madhavananda, bienvenue au cours.
Désolé, on manquait du courant toute la journée, je viens de l'avoir.
Ah, OK. Alors, on est à la page 25 en haut, le deuxième paragraphe. C'est là qu'on est rendu. Alors, voilà. Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Alors, ici, on a lu le verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 2. Raja Vidya Raja Gunyam Pavitram Idam Uttamam. Alors, Krishna dit, d'entre tous les enseignements, ce savoir est le roi, le secret d'entre les secrets, la connaissance la plus pure. Et parce qu'il nous fait percevoir directement le soi, grâce à une réalisation interne, il représente la perfection de la religion. Il est impérissable et d'application joyeuse. Alors, comme on dit en québécois, je n'en reviens pas. Comme c'est dit, on a lu là, en dernier, dans la teneur et portée de ce verset-là, que le Sanatana Dharma est immuable et c'est à l'intérieur de l'âme spirituelle. Ça fait partie d'elle de s'engager dans le Sanatana Dharma. On a lu ça, là. Pas dans ces mots-là, mais quelque chose qui ressemble à ça.
C'est dans sa fréquence.
Oui. Alors, on peut se... Et combien de temps ça peut prendre à une âme conditionnée avant d'arriver à entendre parler du Sanatana Dharma?
2 millions d'années.
Des millions d'années.
Ou vite. Vous direz ça au moment. C'est-à-dire, c'est la volonté de Krishna tout le temps, veut dire.
Oui, mais depuis qu'on a entamé le chemin, ça fait un moment
Ah
qu'on tourne.
ouais, ça fait longtemps.
On en a parlé samedi et ça fait un bon moment qu'on tourne.
Ouais, alors Prabhupada explique que l'âme conditionnée, elle passe à travers les 8 400 000 espèces de vie. Alors, il y en a 8 millions avant d'arriver à la forme humaine de vie. Et les acharyas, disons, transmettent le même message, à savoir que la forme humaine de vie est très précieuse. Et la forme humaine de vie est faite pour s'engager dans la réalisation spirituelle. Et la réalisation spirituelle, à un moment donné, ce n'est plus quelque chose d'indirect et de vague. La voie de l'impersonnalisme, Prabhupada dit, peut être bonne jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point où quelqu'un peut finalement arriver à comprendre que plus que l'impersonnalisme, il y a justement la voie du service de dévotion. Et là, à ce moment-là, la personne accepte de s'engager dans le service de dévotion. Alors, dans le Srimad Bhagavatam, on a l'exemple des quatre Kumaras qui, au début, avaient été, en fait, sur la voie impersonnelle. Puis, ils ont, en goûtant les feuilles de tulasi offertes à Krishna, ça a changé leur cœur. Ils sont devenus des dévots de Krishna. Alors, ça veut dire d'impersonnel, on devient d'impersonnaliste, on devient personnaliste. Personnaliste veut dire que Dieu a une forme, l'âme spirituelle a une forme, une individualité, et l'âme spirituelle, excusez-moi, veut s'engager au service de Dieu, la personne suprême. Et c'est ça qui est beau dans la conscience de Krishna, c'est on a accès à la connaissance pure. La connaissance pure, qu'est-ce que ça veut dire? Je pose la question. Qu'est-ce que ça sous-entend?
Il n'y a rien d'autre à part de ça. Comme ça l'est, comme c'est dit, c'est pur, c'est net, il n'y a rien à faire, c'est ça.
OK, ça c'est une réponse. Qu'est-ce que ça sous-entend?
L'ultime vérité.
OK, une autre réponse. Qu'est-ce que ça sous-entend? Indirectement, si vous voulez.
Ben,
C'est
c'est le
important.
divin.
Pardon?
Indirectement,
C'est
ça
le
sous-entend.
divin.
Oui, Virginie?
Non, je ne sais pas, c'est que tu disais indirectement. Indirectement, ça sous-entendrait qu'il y a de la connaissance qui n'est pas pure.
Exactement. Alors, il y a la
Il y en a
connaissance
beaucoup,
pure,
malheureusement.
connaissance impure, mais impure à cause de quoi?
De l'ignorance?
Oui. Et spécifiquement à cause de quoi?
Parce qu'elle est impersonnelle.
Parce qu'elle n'émane pas de Krishna, de source autorisée.
Oui, c'est des bonnes réponses, mais
Parce
faut...
que l'impur, c'est que c'est on veut être la personne qui donne cette connaissance. Alors c'est l'ego qui joue dans ça là, en ce moment. Parce que quand l'impur, c'est juste Krishna, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'ego dans ça.
Oui, mais justement, s'il y a l'ego, disons terrain que je m'embarquerai pas là, mais s'il y a l'ego, qu'est-ce qui en découle?
On est coupé du centre de la réalisation divine. Parce
OK.
que le jeu devient, il prend importance.
OK. Alors, je vais finalement répondre. Alors, Prabhupada explique. La connaissance qui est pure est dénuée des quatre imperfections des âmes conditionnées. C'est comme ça qu'elle est pure. Alors, il y a quatre imperfections, à savoir la tendance à tromper autrui, la tendance à tomber dans l'illusion, avoir des sens imparfaits. On a-tu quatre, là? Puis être sujet à l'illusion. Alors, la connaissance pure transcende ces quatre défauts des êtres conditionnés, et c'est comme ça qu'elle est pure. Alors, ceci doit nous faire, disons, grandement plaisir lorsque Krishna dit « ça, c'est la connaissance la plus pure ». Ça veut dire qu'il n'y a aucune imperfection dedans. Il n'y a aucune illusion. Il n'y a aucune tricherie ou tromperie. Ça, c'est de cette façon-là que la connaissance est la plus pure. Il n'y a aucune illusion dedans. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ah, ça, c'est merveilleux. Ah, voilà, on va compter. Avez-vous des questions, des commentaires? OK, on va continuer. Alors, page 25, ligne 6. Benoît, voudrais-tu lire, s'il vous plaît?
Oui. Il est impossible de retrouver l'origine historique de toutes les religions, mais pas celle du Sanatana Dharma, car il est pour chacun une réalité éternelle et immanente. Les Écritures révélées, Shastra, n'affirment-elles pas que l'être n'est astreint ni à la naissance ni à la mort? L'âme n'est ni la mort, ni la, dit la Bhagavad Gita. Éternelle et indestructible, elle survit à la mort du corps matériel temporaire. La racine sanscrite du mot Sanatana Dharma peut nous aider à comprendre ce qu'est vraiment la religion. Le mot Dharma désigne la nature intrinsèque d'un objet donné. Chaleur et lumière, par exemple, ne peuvent être dissociées du feu. Sans elles, le mot feu n'a plus aucun sens. Ainsi devons-nous découvrir la qualité essentielle de l'être, qualité qui toujours l'accompagne et constitue sa nature éternelle. Sa nature éternelle est sa religion éternelle. Lorsque Sanatana Goswami s'enquit auprès de Chaitanya Mahaprabhu de la Svarupa, la condition intrinsèque de l'être vivant, celui-ci répondit que sa nature essentielle est de servir Dieu, la personne suprême. On voit sans peine, à la lumière de cette affirmation, que chaque être en sert un autre. C'est ainsi qu'il jouit de la vie. L'animal sert l'homme comme un serviteur son maître. A sert B, qui sert C, lequel, à son tour, sert D, etc. L'ami sert l'ami, la mère son fils, l'épouse son mari et le mari sa femme. Tous les êtres vivants, sans exception, sont impliqués dans le service d'autrui. Lorsqu'un politicien présente son programme, c'est pour convaincre l'électorat de son aptitude à le servir. C'est dans l'espoir de recevoir ce précieux service que les électeurs lui accorderont leur suffrage. Le marchand sert ses clients, l'artisan sert l'homme d'affaires sert sa famille, laquelle à son tour sert l'État. Il y a par conséquent, d'une façon ou d'une autre, une tendance naturelle et éternelle en chaque être qui l'incite à servir. Nul n'y échappe. Aussi peut-on dire en guise de conclusion que cette attitude de service est inhérente à l'être vivant, qu'elle constitue sa religion éternelle. Pourtant, suivant les circonstances, l'époque et le lieu, les hommes professent une foi particulière, christianisme, hindouisme, islamisme, bouddhisme ou autre. Mais de telles désignations n'ont rien à voir avec le Sanatana Dharma. Un hindou peut fort bien se convertir à l'islam, un musulman à l'hindouisme ou un chrétien à telle ou telle autre religion sans que jamais ces changements n'affectent leur disposition éternelle à servir autrui. Le chrétien, l'hindou, le musulman seront toujours les serviteurs de quelqu'un. Professer le Sanatana Dharma ne signifie donc pas épouser une confession religieuse particulière. Non. Professer le Sanatana Dharma signifie servir tout simplement. En vérité, c'est une relation de service qui nous lie au Seigneur. Dieu est le bénéficiaire suprême et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes créés pour son plaisir. Aussi devons-nous concourir à sa félicité éternelle pour connaître le bonheur. Nous ne saurions être heureux sans lui, à l'instar des différentes parties du corps qui ne peuvent obtenir une quelconque satisfaction quand elles se refusent à contenter l'estomac. Il est impossible d'être heureux sans servir le Seigneur suprême dans l'amour et la transcendance. Il n'y a pas même un soupçon de bonheur sur le plan matériel. Cela n'empêche pas les âmes conditionnées de s'acharner à en trouver et d'y croire. Ce n'est que par goût supérieur qu'un dévot peut le trouver sur le plan spirituel où règne l'amour et la transcendance, élément clé du bonheur véritable, sans quoi tout est vain.
Jai, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
On est voué à servir, finalement. Fait que tu te souviens de choisir, de servir la bonne, ce qui va nous naître, ce qui va nous élever, finalement, c'est Dieu ou Krishna, là, la fin. C'est pas nos plaisirs humains.
Ouais. C'est bien différent les plaisirs que on pourrait rechercher par soi-même par comparaison aux plaisirs que l'on peut connaître et éprouver dans l'association des dévots de Krishna. C'est tout à fait différent et en particulier lorsque il y a l'adoration des déités et il y a des kirtanes que les dévots font, le chant, la danse, le prachad, les offrandes de nourriture. Tout ça, il n'y a pas de comparatif au niveau matériel. Ça ne se compare pas. Alors, comme par exemple, ce qui est complètement transcendantal, c'est lorsqu'il y a une installation de déité dans un temple. Alors, supposons que c'est un... Mettons, ISKCON va ouvrir un temple X à tel endroit, là où il n'y avait pas de temple. Et là, ils vont faire une installation de déité. Alors, il y a le maître spirituel qui va être là. Et puis, il y a beaucoup de dévots qui vont être là. Et puis, il y a une cérémonie disons, si on peut dire, classique, une cérémonie exprès pour installer des déités. Alors, les déités sont baignées avec du lait, avec du yogourt, avec du ghee.
Miel. Du miel aussi.
Oui. Alors, il y a des substances qui sont des substances recommandées et appropriées pour faire ça. Et lorsque les dévots sont là, puis là, en même temps, c'est dit que après, disons, pendant la cérémonie ou après la cérémonie, c'est dit que maintenant, dorénavant, la Murti n'est pas différente de Krishna. Et ça, les yeux matériels ne le voient pas. On voit la cérémonie, on voit les dévots qui font office de prêtre, mais on voit pas que Krishna, mettons, est descendu dans la Murti, ça on ne le voit pas avec les yeux matériels. Mais les Shastras nous disent, le maître spirituel nous dit que la Murti n'est pas différente de Krishna, disons, de cette façon-là. Alors la déité, ensuite, de l'endroit où elle a été baignée et ensuite elle va être retirée, elle va être habillée et là, elle va être mise sur l'autel et là, il va y avoir un premier arti pour les déités. Et là, c'est, disons, si vous voulez, c'est pour de bon, là. Il y a le premier arti, puis après, il va y avoir des artis en bonne et due forme, continuellement, disons, à tous les jours, en honneur et en adoration des déités. Là, à ce moment-là, c'est comme Krishna est vraiment dans le temple. Alors ça, toute cette atmosphère-là, toute cette expérience-là, il n'y a rien qui peut se comparer avec des plaisirs matériels. On peut pas expérimenter ça, disons, par des plaisirs matériels. Mais on peut avoir, disons, l'expérience d'avoir vécu l'installation des déités, et c'est un plaisir complètement transcendantal. Alors, comme c'est dit ici, Prabhupada qui dit, nous ne serions, ça c'est à la page 26, ligne 4, nous ne, page 26, c'est ça, ok, en haut ça, nous ne serions être heureux sans lui, à l'instar des différentes parties du corps qui ne peuvent obtenir une quelconque satisfaction quand elles se refusent à contenter l'estomac. Il est impossible d'être heureux sans servir le Seigneur suprême dans l'amour et la transcendance. Alors, la transcendance, là, c'est parce que Krishna est complètement transcendantal. Et tout ce qui est en contact avec lui, ben ça devient transcendantal, comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Non, mais dans le fond, ça dit qu'on est toujours au service de quelque chose ou de quelqu'un. C'est parce que dans le fond, on est des, comme Krishna, on est des êtres dans l'action. On est toujours en action, peu importe ce qu'on fait. C'est une action qui est tout le temps manifeste. Là. On ne peut pas rester sans qu'il se passe rien. Là.
Oui, on ne peut pas être, disons, inactif. Prabhupada décrit ça dans Bhagavad Gita. L'âme est toujours active. Alors, l'idée, c'est où seront dirigées ces actions, ces activités. Alors, les actions, les activités vont être dirigées en fonction. Là, on redescend un petit peu au niveau matériel, en fonction du mental. Alors, comme Prabhupada explique, si le mental est dérangé, ben l'homme va faire toutes sortes d'affaires qui sont un peu dérangées, merci. Par contre, si le mental, dans le cas contraire, si le mental est fixé sur Krishna, ben les actions vont être dévotionnelles, vont graviter autour de Krishna. Et si le dévot est vraiment, la personne est bien consciente de Krishna, là, ben, chaque action qu'elle va faire, c'est une offrande à Krishna. Alors, Prabhupada écrit dans la Bhagavad Gita, l'action ou le karma est fait pour être un yagya, c'est-à-dire un sacrifice offert à Krishna. Alors, si on fait le karma sans faire yagya, à ce moment-là, c'est du karma qu'on va avoir à subir les conséquences. Que ce soit bon ou mauvais, ça nous lie à l'existence matérielle. Par contre, si on fait nos activités pour l'amour de Krishna, pour faire plaisir à Krishna, sous la direction d'un maître spirituel authentique, sous la direction des Écritures, dans l'assemblée des dévots, Guru, Sadhu, Shastra, il n'y a pas de réaction pour ça. Ça, c'est akarma. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste savoir si, en faisant, on dit on est serviteur, mais c'est comme, quand on aime quelqu'un puis on sert, on sent pas que c'est du service. Alors, il faut arriver à l'amour divin pour plus sentir que c'est un service qu'on fait. C'est, c'est comme naturel.
Oui, comme c'est naturel, mais disons, je vais juste faire une petite nuance, si tu veux. Dépendant de la conscience, tu sais, le désir de vouloir dominer dans le monde matériel, ça s'en va pas du jour au lendemain, ça. Alors, quelqu'un peut faire du service, puis en même temps, sa conscience n'est pas vraiment purifiée de ça. Puis là, je veux viser personne, là. C'est pas le point. On le voit tout le temps dans la vie matérielle, que tout le monde veut être veut dominer. Alors, les gens, des fois, ils deviennent offensés, ou des fois, les gens se chamaillent ou s'engueulent même, parce qu'ils pensent que leur point de vue ne passe pas, puis ils tiennent à tout prix que leur point de vue passe. T'sais? Comme là, on voit, par exemple, il y a des grèves de un puis de l'autre, ou des associations de médecins qui veulent montrer leur mécontentement. C'est un peu compliqué, l'affaire, là. Mais, comment on peut dire? Ça fait partie de l'existence matérielle, ça. Alors, pour un dévot de Krishna, il doit transcender tout ça. Et puis, c'est le plaisir. Alors, comme on a lu aujourd'hui, à la page 23, dans le mot à mot du verset Bhagavad Gita 9.2, Su-sukam. Sukam, ça veut dire le bonheur. Et su, c'est une préposition, si on peut appeler ça comme ça, là, pour... su, en tout cas, c'est... pour indiquer... c'est un superlatif, excusez-moi. C'est un superlatif. Alors, su-sukam, ça veut dire que c'est heureux. Mais là, ici, c'est traduit par très joyeux. Alors, le service de dévotion, c'est très joyeux. Et ça, ça se compare pas non plus au niveau matériel. Tu sais, mettons, tu t'en vas dans le métro, là. Le matin, à 6 heures du matin, tu t'en vas dans le métro, qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vois des gens qui sont assis, qui ont tous le grand sourire jusqu'aux oreilles, qui sont très heureux?
C'est très rare.
Oui, c'est très, très rare. En fait, c'est presque jamais. Tellement c'est rare. Tu sais, tu vas dans le métro, puis...
Puis tu arrives au travail, et puis c'est tout pareil aussi.
Ouais, c'est...
Et en fait, c'est un enchevêtrement de tout ça. Et tant que... en fait, quand on a goûté au bonheur ultime... on ne recherche plus des pseudo-bonheurs, en fait, comme c'est dit là. Il n'existe pas de vrai bonheur dans ce monde. C'est ça. On peut cela n'empêche pas les âmes conditionnées de s'acharner à en trouver et d'y croire.
Ouais. C'est ça.
Les humains passent leur vie à ça, en fait.
Parce que dans la vie matérielle, en fait, c'est un bonheur égoïste que les gens essayent de savourer.
Mm-hmm.
Et comme c'est dit aussi par Prahlad Maharaj, ça, c'est ce genre de bonheur-là, c'est comparé à mâcher le déjà mâché. Ils ont déjà expérimenté. Ça n'a pas donné vraiment de bonheur véritable. Mais il recommence et recommence et recommence. Et ça, c'est le pouvoir de l'illusion. Alors, Prabhupada donnait un exemple de bonheur illusoire. Alors, Prabhupada donnait un exemple et il voyait une publicité sur un grand, comment on appelle ça, panneau publicitaire, des grands trucs, là. Plusieurs pieds de grand, là. Une publicité pour des cigarettes. Puis là, sur la publicité, c'était dit, C'est cool de fumer. Alors, Prabhupada disait, comment est-ce que ça peut être cool quand les cigarettes, c'est du feu? Alors, c'est ça le pouvoir de l'illusion. C'est que tu es en train de quelque chose, de fumer quelque chose que c'est, qui est allumé avec du feu. Mais là, il y a quelqu'un qui dit, ça, c'est cool. Alors, évidemment, quelqu'un peut dire, mais il faut pas le prendre comme ça, là. C'est une expression que, tu sais, t'as de l'air fin quand tu fumes. T'es cool. Oui, dans ce sens-là, ça peut passer. Mais quand même, le jeu de mots, Prabhupada disait, comment est-ce que ça peut être cool quand c'est du feu? Alors, il y a bien des choses dont, au niveau matériel, que Maya nous fait gober par sa force d'illusion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'en ai une.
Oui.
Dans le fond, il ne faut pas trop juger. Je parle de personne, là, je pensais à la Bhagavad Gita quand Krishna est avec Arjuna est dans le centre des deux. Tu dis c'est bats-toi, arrête de penser juste. Il y avait deux camps qui se battaient, mais il y en a un qui se battait avec l'intérieur pour Krishna, pour the righteous, et l'autre c'est pour l'ego et tout ça. Alors dans le fond, c'est l'action elle-même a pas sa valeur si on connaît pas l'intérieur de comment l'action s'est manifestée, pour quelle raison elle s'est... Je sais pas si je me fais comprendre.
Oui, disons, la motivation de l'action, s'il y en a une qui est pour Krishna, puis l'autre, ben c'est pour satisfaire
c'est ça.
Une ambition, en fait, pour Duryodhana et compagnie, Dhritarashtra et compagnie, leur but sur le champ de bataille, c'était de se battre pour garder un royaume dont ils n'étaient pas des héritiers légaux.
Alors ça, c'est le monde matériel. Ils se battaient pour des choses de cette dimension matérielle de pouvoir, l'ego, je suis, j'ai de l'argent, j'ai une femme. Alors c'est un peu comme aujourd'hui, ils ont peut-être pas des royaumes, le monde, mais ils se battent pour leur croyance d'appartenance à des objets, des idées, des titres. C'est l'illusion elle-même. Alors une personne qui marche n'importe où, elle peut être vraiment détachée de tout ça, veut dire en servant le Seigneur. Parce que je regarde, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir d'être entouré de dévots, puis d'avoir l'opportunité. Il doit être quand même du bon monde dans tout ce monde-là. Si on peut pas dire sont tous perdus. Là. Il y en a que leurs paroles sont pas des paroles structurées comme on a dans dans les Védas, mais ça s'emmène au même but. Ça veut dire.
Ouais, comme Krishna dit, dans ce monde, il y a deux sortes d'êtres. Ça, c'est dans le chapitre 16 de la Bhagavad Gita. Il y en a qui sont dévots, puis il y en a qui sont pas dévots. Alors, faut voir, juger par les qualités. Et ça aussi, Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita. Il donne les qualités des êtres divins et il donne les qualités des êtres démoniaques. Comment on peut dire, c'est l'eau et le feu. Ça se compare pas, là, c'est vraiment différent. Alors, faut juger. Alors, aussi, les êtres qui sont jugés, disons, démoniaques, peuvent avoir dans le monde matériel une position enviable. Mais ça change pas le fait que dans leur fort intérieur, si on juge à l'intérieur, là, ben c'est un peu noir, merci.
Mais une place qui disent que Krishna est assis dans tout le monde. Si on juge, on juge le côté corporel, physique, pas vraiment l'âme. On juge son comportement, son attitude, mais pas l'être qui le vit, cette expérience.
Mais on n'a pas jugé, en fait.
C'est
Enfin,
la
moi, je sais pas, mais...
personnalité, qu'on juge dans ça.
Moi, je... Enfin, je
Mais il y en
suis...
a qui sont ancrés dans leur personnalité, ils se croient le costume, comme on dit, là.
Absolument, absolument.
C'est là qu'on est perdu.
C'est là la différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour humain, c'est que tu aimes la personnalité, tu aimes la personne dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pense. Mais c'est pour ça que des fois, c'est dur de pardonner quand ils font quelque chose qui est là, c'est le contraire, ce que tu n'aimes pas de la personne. Tu sais. Mais dans l'amour divin, c'est pas la même chose. Là.
C'est l'être que
C'est
t'aimes.
l'être, c'est
Qui est
l'âme que tu
l'être
aimes.
total en même temps.
Oui, mais tu dois voir justement l'amour divin dans tous les êtres, même ceux qui font des
Oui.
choses pas belles.
Oui.
Et il faut juste pas t'en approcher, quoi, c'est tout.
Ça dépend de la force de l'individu dans son avancement spirituel, tu vois. Il y en a du monde qui sont très élevés, puis qui donnent autant d'amour à l'un à l'autre, ne sont pas affectés par leur énergie négative de l'autre.
Non, mais c'est de l'amour divin qu'il lui
Mmh,
donne.
ça,
Oui,
ça.
c'est pour
Oui,
ça.
oui.
Ouais,
T'aurais pas
mais
dû penser. ça c'est un point qu'on peut dire qui est discutable. Parce que Prabhupada en parle. Parce que Prabhupada explique en quelque part que si les sens ne sont pas engagés au service de Krishna, peu importe qu'on fait un spectacle artificiel de maîtrise des sens, tôt ou tard, il y aura une chute. Alors, il parle de ça en rapport avec des faux gourous qui ont beaucoup de disciples, qui ont de l'air bons. Disons, personnellement, j'ai vécu ça à Paris. On allait chanter à Boulevard Saint-Michel et puis on avait à l'époque, c'est des années 70, ça. Il y avait un gourou qui s'appelait Guru Maharaji. Et il avait beaucoup, beaucoup de disciples. À Paris, il y en avait beaucoup. On en rencontrait peut-être un sur cinq dans les passants parmi les étudiants. Très populaire. Mais le même gars, en Inde, a été arrêté ou a été... Il faisait des choses vraiment pas catholiques en Inde, et puis soit il était arrêté ou soit il est mort. Mais je sais qu'il n'existe plus, le bonhomme, là. Mais alors, le côté superficiel, spectacle, ça c'est une chose. Puis les gens sont tellement, disons, innocents, ils ne voient pas à travers ça. Ils ne vont pas juger en fonction, mais qu'est-ce qu'il enseigne, lui? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que c'est conforme ou en harmonie avec les enseignements de d'autres maîtres spirituels authentiques? Alors, ces gens-là nous disaient que très facilement, ils peuvent voir la lumière, puis que leur gourou leur donne un mantra à chacun, individuel.
Il paye pour ça.
Il paye pour ça, qu'il paye ou
Le
qu'il paye pas.
mantra.
Oui, un mantra.
Ouais, 60, il me demandait 60, j'ai été une fois, voir quelque 60 $ pour le mantra.
Ben, c'est ça. Alors, 60 $ par tête,
Ça
si
fait
t'en
mal.
as 100 d'un coup, ça t'en fait,
6 000,
disons,
là.
60, ça t'en fait 6 000 $ pour une soirée, là. Puis ça, c'est jamais fini parce que le disciple va dire à quelqu'un d'autre, ben, viens voir, c'est le fun, patati patata. Puis ça fait boule de neige, là, puis le maître spirituel, est en
Mais
train de se marrer, là, lui-là, là.
lui, il vend le même mantra à tout le monde, mais il ne dit pas à l'autre, c'est ton mantra personnel. Alors personne ne le sait. Alors il le vend, puis revend.
Exactement. Alors ça, c'est une supercherie. Et, il y a un très mauvais karma pour ces personnes-là. Alors, comme c'est dit dans le Ishopanishad, les personnes qui distribuent une fausse connaissance sont destinées à entrer dans les régions les plus ténébreuses de l'univers. Alors, c'est dans les débuts, ça, de Ishopanishad. Alors, on est chanceux de, dans l'âge de Kali, si on, justement, on tombe sur un maître spirituel authentique qui nous donne la vraie connaissance. Et comme on vient de dire tantôt, la connaissance pure, qui est exempte des quatre imperfections des âmes conditionnées. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Je peux dire qu'on est béni d'avoir un intérêt à écouter sur Krishna. C'est déjà une grande bénédiction que le goût, il est dedans. On l'écoute et on a envie d'entendre tout sur lui. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Krishna, puis c'est comme « Ah, ouh, ça veut rien dire. » Ça, c'est une grosse bénédiction. Moi, je trouve que c'est une des, pour moi, c'est la plus grosse bénédiction. Sinon, j'aurais pu écouter toutes sortes de conneries dans ma vie. Comme j'ai perdu beaucoup de temps, j'aurais continué à perdre du temps encore. Il est super précieux, ce temps.
Ouais, Krishna voit la sincérité de la personne
Ça.
et puis il donne l'intelligence de l'intérieur pour justement accepter la connaissance transcendantale et puis se conformer à ces enseignements-là et modeler sa vie en conséquence. Tout ça, c'est Krishna qui donne l'intelligence, donne l'opportunité. C'est la grâce de Krishna. On peut jamais, disons, repayer notre dette envers notre maître spirituel et Krishna. Simplement. OK. On va continuer.
Il y avait quelque chose aussi tout à l'heure, Madame Anne, on avait parlé de du champ de bataille. Mais moi, je me suis toujours, en fait, je ne perds pas de vue que Krishna a demandé aux Pandavas et aux, comment c'était les autres,
Les Kauravas.
les Kauravas, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qui c'est qui voulait l'armée de Krishna et qui c'est qui voulait Krishna? Et les Pandavas ont, Arjuna a pris Krishna, le conducteur de son char. Les autres ont tout de suite sauté sur l'occasion. Waouh, on prend l'armée. Et avec l'armée, on va écraser. Sauf que quand on n'a pas Krishna comme conducteur de son char, on part mal à la guerre, en fait.
Ouais, ça
La
va
fire.
foire. Tout va foirer.
Tout va foirer. Et c'est ça, moi, permanence, souvent, ça, c'est qui le conducteur du char, en fait? C'est important.
Ouais, t'as tout à fait raison là-dessus.
La qualité et non la quantité.
Ouais, exactement. Bon, alors, on est à la page, quelle page qu'on est rendu? À la page 26. 25.
Au 2,5 en fait.
Ouais, 2,5. OK. Ah, ben c'est déjà fini, là. Wow, dans 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Moi, j'avais. Bon, tu sais, on parle d'action depuis tantôt, de servir. Mais qu'est-ce. Puis dans les Écritures, il parle souvent des divertissements de Krishna.
Ouais.
Divertissements. Qu'en est-il de ça qu'on fait? Bon, est-ce qu'on a droit à ça, nous, les divertissements?
OK, ça c'est une bonne question. Et nos activités dans le monde matériel ne sont pas nos divertissements. Pourquoi? Parce que dans le monde matériel, on a oublié Krishna et ce que l'on fait, ça vaut pas grand-chose. En fait, c'est juste pour passer le temps. On perd notre temps continuellement dans le monde matériel, avec des activités matérielles, bonnes ou mauvaises. Et en fait, l'être vivant est fait pour retourner à Krishna et participer au divertissement de Krishna. Parce qu'on est des serviteurs. Alors, au lieu d'essayer de se servir soi-même, on va engager notre capacité de service au service de Krishna. Alors, notre position originelle, constitutionnelle, c'est, on est dans un service que l'on offre à Krishna pour l'éternité. Alors, Prabhupada donne un exemple. Dans le monde spirituel, la perfection d'une chaise, S'il y a des chaises dans le monde matériel, il y a des chaises dans le monde spirituel, parce que le monde matériel n'est qu'une réflexion de ce qu'il y a dans le monde spirituel. Alors, la perfection d'une chaise dans le monde spirituel, c'est lorsque Krishna vient s'asseoir sur la chaise. Et la chaise est consciente. La chaise est spirituelle. Alors, c'est difficile à comprendre avec notre conditionnement matériel. Parce qu'ici, une chaise, ça n'a pas de conscience. C'est de la matière inerte. Mais dans le monde spirituel, il y a différentes relations avec Krishna. Il y a une relation de neutre. Justement, là, tu as des objets. La guirlande de fleurs à Krishna. On peut dire dans un sens, ah, c'est pas une personne, c'est juste une guirlande de fleurs. Non, mais elle est spirituelle. Elle est heureuse comme ça se peut pas. Elle est sur la poitrine de Krishna. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça?
La flûte. Elle a une abeille, en plus.
La flûte de Krishna, elle est, les lèvres de Krishna se posent sur la flûte de Krishna. Même les gopis voudraient être comme la flûte parce que Krishna met ses lèvres sur la flûte de Krishna. Alors, c'est divertissement, c'est loin de nous dans le sens que on est bas dans le service de dévotion. On n'est pas très avancé. Alors, c'est dit dans les Écritures, la première chose à réaliser, c'est de réaliser le nom, les noms de Krishna. Ensuite, les qualités de Krishna. Ensuite, les divertissements de Krishna. La forme de Krishna, excusez-moi. La forme de Krishna, ensuite les divertissements de Krishna. Ça s'en va dans cet ordre-là. Alors, il faut qu'on soit vraiment pur, disons pratiquement parlant à 100% pour justement être éligible à avoir une relation où on voit Krishna face à face et puis qu'on le sert en personne. C'est le but ultime. Alors.
Mais on peut à tout le moins vivre dans la réjouissance.
Excuse-moi, veux-tu répéter, s'il te plaît?
On peut à tout le moins vivre dans un état de réjouissance quand on est un peu dévot de Krishna. Plutôt que de vivre dans la réjouissance matérielle, la réjouissance, c'est comme, il me semble, un état intérieur de perfection. Là.
Oui. Oui. Même si on n'est pas rendu à l'étape de samadhi, d'avoir un mental fixé là à toute épreuve sur Krishna, le service de dévotion en lui-même procure un bonheur. Et ce bonheur-là est spirituel, et puis un dévot est satisfait, un dévot est content. Alors, tu sais, c'est comme par exemple, donnons un petit exemple, disons, très bénin, à savoir pour un dévot. Tu dis à un dévot, mon cher dévot, est-ce que tu manges de la gomme, toi? Donc, si je vous pose la question, est-ce que vous mangez de la gomme, vous autres?
Non.
Non?
Allez, des fois.
OK. Et Réjean?
Voilà, la réflexion.
Non, je m'attendais à non de tout le monde.
Quand même.
Alors pourquoi? Parce que un dévot mange du prachad. La gomme, c'est pas plus prachad qu'il faut. Mais si quelqu'un offre la gomme à Krishna, bon, mais ça, c'est une autre paire de manches, là. Mais en général, c'est pas quelque chose que le dévot va manger. En fait, mâcher. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nécessité. Mais ça dépend des personnes. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier, là. Mais c'est juste un petit exemple. Et,
Je me prends des situations, Prabhu, des fois, on fait des voyages, puis on n'a pas la chance de se brasser les dents, on n'est pas quoi, on a rencontré du monde. Alors, tu manges une gomme vite, juste pour la laine, puis après, tu la jettes. C'est utilité matérielle totale.
Oh, chacun peut décider jusqu'à quel point c'est dans le cadre du service à Krishna. Mais en général, les dévots vont pas manger de gomme. Parce que c'est pas du prachad. Tu sais, les dévots vont préférer, OK, on fait une offrande en bonne et due forme, ou on cuisine, on l'offre à Krishna. Puis, en général, il n'y a pas de gomme qui est offerte à Krishna, là. C'est comme ça, là. Un petit exemple, le Bénin. Il y a des choses que des dévots juste laissent de côté. Simplement. Tu sais, quand on a grandi dans... En tout cas.
C'est vrai.
Ici, au Québec, on a grandi dans une atmosphère, quand t'es enfant, t'as toutes les... beaucoup de facilité d'avoir les bonbons que tu souhaiterais, possibles et imaginables. Mais quand tu grandis, tu délaisses, ce n'est plus comme avant. Tu sais, mettons, un enfant va prendre beaucoup de plaisir à marcher de la réglisse, par exemple. Mais une fois rendu à un certain âge, la réglisse, ça ne l'intéresse plus.
Ça n'a plus le même goût.
Ça n'a plus le même goût, et c'est long, puis c'est... Tu sais, quand tu travailles, t'as un job, là, c'est pas le temps de manger de la réglisse, là. Oublie ça. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Je vais rajouter quelque chose sur les divertissements de Krishna.
Oui.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce qui se passe ici dans ce monde matériel, c'est exactement plus élevé dans le monde spirituel.
Oui.
Là, c'est quand même un divertissement, veut dire tout ce monde matériel qui manifesté, il y a quand même un plaisir qui est pas physiquement lui là, mais il y a toutes ces énergies sont là quand même. Alors, c'est quand même un divertissement de créer un univers entier comme ça avec toutes sortes de choses, de scénarios qui se passent dans une planète de l'autre, tout ça là. C'est un grand écrivain, il écrit toutes sortes de scénarios où il joue dedans. C'est comme wow, tu sais, c'est...
Oui, la création matérielle est merveilleuse, mais en même temps, Krishna est complètement détaché de ça, et il le fait à cause des âmes conditionnées. Alors, Krishna a créé un monde où les âmes rebelles peuvent trouver une certaine satisfaction, mais cette satisfaction-là ne dure pas. Alors, Krishna, il a le bonheur matériel, le malheur, la détresse matérielle, mais il s'est assuré qu'il n'y a personne qui va pouvoir rester définitivement dans une position permanente. Et comment il fait ça? La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Au moment de la mort, Krishna enlève tout. Et c'est à recommencer dans une autre vie. Laquelle vie n'est pas garantie d'être une forme humaine de vie. Et c'est selon le karma des êtres humains qui va déterminer leur prochaine vie. Soit supérieure, égale ou inférieure. Dans les autres formes de vie, ils ne sont pas humaines. Il n'y a pas de karma, là. Les êtres vivants subissent leur karma. Mais dans la forme humaine de vie, il y a karma parce qu'il y a responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est soit d'être conscient de Dieu ou ne pas être conscient de Dieu. Puis à ce moment-là, tout se joue en conséquence. Voilà.
Peut-on dire
que
le karma, c'est comme un acteur qui joue sur une pièce de théâtre. Là, elle va se finir, la pièce de théâtre, puis là, il va avoir quelque chose d'autre à faire, mais dépendant comment il a joué sa pièce, les valeurs qu'il a données, comment il était bon. Alors là, il va voir si la réaction, les autres personnes, les autres producteurs vont parler, ah, oh, il est très bon, ben, on va le mettre ici comme joueur. Tu sais? Genre, c'est un peu ça.
Pour moi, c'est que tu récoltes ce que tu sèmes.
Oui, c'est ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors, dans la vie matérielle, on peut tourner en rond pendant longtemps, mais le maître spirituel, lui, nous donne une formule que tu mets un terme à ça d'un coup. Tu chantes Hare Krishna, puis tu regardes qu'est-ce qui va arriver. Quand tu chantes Hare Krishna, ça veut dire « Oh mon cher Seigneur, ô énergie divine du Seigneur, veuillez m'engager à votre service. » Et ça change tout. C'est ce que Prabhupada nous a donné, le Maha Mantra. Et c'est à nous de chanter Hare Krishna Mantra et essayer d'éviter les offenses au Saint-Nom. Et puis, parfaire notre vie. C'est-à-dire rendre notre vie parfaite en chantant Hare Krishna et apprécier la miséricorde de Krishna sous la forme du maître spirituel, des dévots, du service de dévotion, des déités, du prachad, des saints noms, ainsi de suite. Les saints lieux aussi. Ça aussi, c'est extraordinaire d'aller pour un dévot, aller visiter des lieux saints où Krishna a été. Quand il est venu sur la planète, Vrindavan, Mathura, l'atmosphère complètement, disons, spirituelle. Et l'âme est contente dans cette atmosphère-là. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'être venu au cours. Et puis on se revoit la semaine prochaine.
Samedi.
Samedi, il n'y a pas de cours.
Oh, samedi prochain, OK.
C'est l'autre samedi.
OK.
Voilà. Alors, à la semaine prochaine.
Merci
beaucoup. Hare Krishna. Hare bon, les gens. Prends soin. Hare bon, Jai.
Hare bon, ça va voir.
Hare bon, les gens. Prends soin. Passe une belle semaine. Bye. Hare bon, Jai. Hello, stop sharing. Stop sharing. Voilà. There you go.